aussi bien, qui devrait être la logique. Mais non, on est totalement dans ce discours israélien. Et donc, je crois que c'est ça le problème, et ce qui rend la chose difficile pour quelqu'un qui se bat pour les droits des Palestiniens, c'est que d'une certaine manière, c'est plus difficile aujourd'hui à combattre que ce l'était il y a 10 ans. Parce que, je dirais, il y a ce double langage des officiels français qui est de dire, mais attendez, mais on est pour l'État palestinien, et puis on critique Israël régulièrement. Mais sans se rendre compte, ou sans, je ne sais pas, peut-être en se rendant compte, que Israël, ce qui l'intéresse, c'est les relations concrètes qu'ils ont avec l'Union européenne, et que ces relations sont de plus en plus fortes. Alors, est-ce qu'il va y avoir un changement avec le nouveau gouvernement? Je pense qu'il y aura des inflexions, mais comme vous le savez, les combats... il a lieu à l'intérieur des forces politiques, c'est-à-dire aussi bien l'UMP que le PS est traversé en différents courants, plutôt le majoritaire pro-israélien, mais ça va dépendre, je veux dire, si on peut le dire très rapidement, parce qu'après, Fabius est moins pro-israélien que n'aurait été Moscovici. Et donc, il peut y avoir des changements à la marge, mais je ne crois pas à des changements importants tant que les politiques pensent qu'il n'y a aucun prix à payer pour leur soutien à Israël. Voilà, je veux dire, ça me semble ça ce qui est important. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, les politiques ont l'impression, et peut-être pas tout à fait à tort, que, compte tenu de leur double langage, finalement, ils ne payent aucun prix politique réel pour cette politique pro-israélienne. Là où il va y avoir une différence, et je pense que c'est important, et ça peut... j'en ai pas parlé pour les révolutions arabes. D'une certaine manière, jusqu'à présent, l'Union européenne et les États-Unis pouvaient avoir une politique de soutien total à Israël sans payer aucun prix politique. Et quand on disait, moi je me rappelle avoir discuté avec des diplomates américains qui, en leur disant, mais attendez, les sentiments anti-américains dans le monde arabe sont très forts, etc. Je dis, oui, après, ça ne se traduit pas politiquement. Maintenant, c'est en train de se traduire politiquement. Et ça peut aussi contribuer à des changements. Sur la stratégie des Palestiniens, il faudrait discuter longuement. C'est, comme vous savez, il y a tout un débat sur est-ce que la possibilité de deux États existe encore, est-ce qu'il faut aller vers un État, etc. Mais la réalité politique, je veux dire, c'est important de la percevoir, et je dirais la victoire quand même des Palestiniens, c'est que sur la terre de Palestine, ils représentent la moitié de la population, et il y a une vraie conscience nationale. Et ça, Israël n'a pas pu le régler comme problème. Et ça reste une épine dans le pied d'Israël. Comment ça peut se traduire? On peut en débattre ici très longuement, et vous savez qu'il y a beaucoup de débats, y compris de polémiques, dans le mouvement de solidarité avec les Palestiniens, de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on soutienne comme stratégie. Moi, mon idée, c'est... ma position, c'est que la stratégie, c'est pas nous qui la définition, c'est les Palestiniens, et nous on soutient les Palestiniens. Mais ceci étant, il y a un vrai débat, et c'est vrai qu'il y a une impasse politique et diplomatique, et qui rend les choses plus difficiles. Dans quelle mesure Israël a contribué au maintien des oligarchies? Je dirais que le conflit israélo-arabe a incontestablement joué un rôle dans le maintien des oligarchies dans les différents pays, au nom d'ailleurs paradoxalement de l'idée que ces oligarchies combattaient Israël, c'est-à-dire que des régimes comme la Syrie, l'Égypte, etc., pendant très longtemps, leur légitimité c'était de dire « attendez, on ne peut pas faire la démocratie, on ne peut pas... » parce que nous combattons Israël et que nous sommes en guerre. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ça a contribué à la glaciation de la région. Mais c'est aussi un discours qui est devenu de moins crédible, mais qui avait permis aussi, c'est important, de mettre en place des appareils militaires et policiers de répression tellement importants qu'il était difficile de se révolter. Et il a fallu beaucoup de, je l'ai dit, d'accumulation d'expérience, de courage, etc., pour arriver à des révolutions. Mais c'est vrai que la guerre avec Israël a permis la construction d'appareils militaro-policiers sans précédent. Enfin, je crois qu'il n'existe pas dans beaucoup de pays. C'est le ratio de militaires et de policiers par rapport à la population est très important. Donc ça, c'est incontestablement. Maintenant, Israël face aux révolutions arabes, je dirais que, bon, on a vu très clairement qu'il préférait Moubarak. Israël préférait Moubarak, ça n'est jamais caché. Maintenant, la capacité d'Israël d'agir directement sur la révolution arabe, bon, ça dépend des situations, mais elle est quand même assez limitée. Et je crois qu'il faut bien comprendre que, évidemment, Israël, comme les États-Unis, comme l'Union européenne, ont une stratégie à l'égard de ces révolutions arabes. Elles ne restent pas à regarder ces révolutions arabes. Mais, je répète, ce que ces révolutions arabes ont montré, et je pense que c'est vraiment important, c'est que le centre de décision n'est pas à Washington, n'est pas à Tel Aviv, n'est pas à Paris. Et je crois que ça, c'est très important. Et c'est aussi le reflet du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, on n'est plus dans le monde de la colonisation. On est dans un monde où la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, Ankara jouent un rôle de plus en plus important, dans lequel les États-Unis et l'Union européenne jouent aussi un rôle, mais qui est quand même relativement moins important. Et je crois que ça doit plutôt nous inciter à l'optimisme.